Quand on lit ce récit de la transfiguration de Jésus, la première réaction peut être de se dire « Mais bon sang, qu'est-ce que ce texte vient faire là ?» C'est que, en effet, cela ne colle pas. Cela ne colle pas d'abord avec l'image que nous avons du Christ. Cette métamorphose, puisque c'est le sens exact du mot grec que l'on traduit par transfiguration, ce visage qui se met à briller comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière, et puis cette apparition soudaine de Moïse et d'Élie, non, vraiment tout cet aspect un peu magique et presque un peu clinquante, tout cela ne colle pas avec notre fils de charpentier, né dans une crèche, bien ancré dans la réalité du monde de son époque, humble, fréquentant les estropiés de la vie. Non, vraiment, cette sorte d'apothéose ne colle pas avec l'image de simplicité que nous associons à Jésus. En tout cas, que nous lui associons aujourd'hui. Nous qui lisons les évangiles de nombreux siècles plus tard, et qui, par eux, savons quelle a été la passion du Christ. Nous qui sommes aussi plus ou moins pétris d'un catéchisme protestant, qui n'aime guère la sacralisation. Et en plus, ce passage se situe juste après que Jésus vient d'annoncer sa passion. Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup, je serai mis à mort, vient-il de dire à ses disciples. Quelle rupture que cette métamorphose par rapport au passage précédent. Alors, bien sûr, cette impression d'étrangeté, voire même d'incongruité de ce texte n'est qu'une impression. Et à y regarder de près, les différents moments s'enchaînent. Tout un système d'échos et de symboles permettent à ce passage de s'inscrire dans une continuité, plus que dans une rupture, et de discerner le plan de Dieu. Par exemple, ce Jésus au visage étincelant n'apparaît-il pas d'une certaine façon comme un nouveau Moïse ? Nous voyons en effet que la rencontre avec Dieu fait resplendir le visage de Jésus. On nous dit en effet, son visage resplendit comme le soleil. Or, le visage de Moïse aussi rayonne lorsqu'il redescend du Sinaï avec les tables de l'Alliance. On lit au chapitre 34 de l'Exode, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse, lui aussi, est métamorphosé. Moïse, le représentant de la loi, dont Jésus se fait l'héritier, le continuateur, quand il dit, par exemple, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et puis, métamorphose, il y a bien aussi, d'une certaine façon, pour le prophète Élie, avec sa fin tout à fait extraordinaire. On lit dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, « Pendant qu'Élie et Élisée marchaient ensemble et s'entretenaient ensemble, un char étincelant tiré par des chevaux éclatant de lumière les sépara. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. » La rencontre de Jésus avec Moïse et Élie, si elle présente bien sûr un côté un peu magique, est du point de vue symbolique tout à fait cohérente. Jésus est ici métamorphosé comme l'ont été Moïse et Élie. Mais surtout, il réunit en sa personne ces deux aspects que sont la loi avec Moïse et les prophètes représentés par Élie. Jésus incarne bien ici l'accomplissement de l'attente annoncée au Premier Testament. Il est ce Messie qu'on attendait. Il l'est pour ses trois témoins que sont Pierre, Jacques, Jean. Il l'est aussi, bien sûr, pour nous. Mais la continuité ne s'opère pas seulement avec le Premier Testament, mais aussi avec d'autres passages de l'Évangile de Matthieu. Cette voix qui se fait entendre du nuage prononce des paroles que nous reconnaissons. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Oui, ce sont les mêmes mots qu'une voix venue du ciel prononce au moment du baptême de Jésus. Et ces paroles sont, dans l'un et l'autre passage, accompagnées d'une épreuve de tentation. Souvenez-vous, juste après son baptême, le diable transporte Jésus sur une haute montagne, dans une situation équivalente à celle de notre récit d'aujourd'hui. Puis, il lui montre les royaumes du monde et leur gloire. Et Jésus ne cède pas. Il lui répond « Retire-toi, Satan !» Phrase qu'il vient de répéter à Pierre quand celui-ci veut le détourner de la souffrance de la passion. Tout cela permet aussi de recoller ce qui au départ pouvait paraître incohérent, pour les disciples et peut-être aussi pour nous. Ce Jésus en lequel les disciples ne pouvaient reconnaître le Messie lorsqu'il leur annonçait sa mort, une mise à mort ignominieuse et donc complètement opposée à l'image qu'il se faisait d'un Messie glorieux, nouveau roi d'Israël, ce Jésus est ici pleinement reconnu comme le Fils de Dieu. La transfiguration, elle est là pour confirmer l'incroyable, c'est-à-dire pour aider les disciples à s'approprier l'idée que celui qui va être crucifié est bien le Fils de Dieu. Il faut cette grande mise en scène pour que Pierre, si farouchement incrédule, et même, comme nous l'avons vu, tentateur dans l'épisode précédent, quand il refuse catégoriquement l'annonce de la passion de Jésus, oui, il faut cette grande mise en scène pour que Pierre, mais aussi Jacques et Jean, amorcent un chemin de conversion par rapport à l'idée qu'il se faisait du Messie. Pierre, Jacques et Jean, les disciples témoins de cette transfiguration, sont donc appelés à être transformés, métamorphosés eux aussi, dans leur croyance, appelés à renoncer à l'image qu'ils se faisaient auparavant du Messie. Et cet appel s'adresse bien sûr à tous ceux qui veulent suivre le Christ. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle, nous dit Paul dans sa lettre aux Romains. Cette métamorphose signifie que nous sommes appelés à nous laisser habiter par Dieu, à nous laisser traverser par sa lumière, par son rayonnement. Ce récit, la transfiguration, qui pourrait nous paraître lointain, cette rencontre au sommet, cette brillance surnaturelle, devient, dès lors que nous le méditons plus profondément, une bonne nouvelle qui s'adresse à chacun de nous. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater que cette rencontre de Jésus avec Moïse et Élie se passe 6 jours après. 6 jours après, ça veut dire le 7e jour, un jour de Shabbat, un jour où l'on n'agit pas, où l'on ne produit pas, où l'on n'est pas dans le pouvoir, mais un jour où l'on reçoit, où l'on se laisse habiter par la méditation de l'Écriture. Un jour où l'on n'est pas là pour servir en dressant des tentes, comme le propose Pierre, mais pour être simplement le témoin. Témoin de la gloire de Jésus dans cette transfiguration, incompréhensible sans la présence de Moïse et d'Élie, sans l'héritage du Premier Testament. Et cette gloire ne peut se manifester concrètement par des tentes, par une matérialisation de la présence de Dieu, par ces sortes de temples de toile. On ne peut assigner Dieu à résidence dans aucune demeure humaine. Il ne s'agit donc pas d'être en extase devant un phénomène surnaturel et qui nous dépasserait et de les figer dans le temps. Non, le but de la transfiguration n'est pas de figer ce qui n'est qu'une nourriture pour l'âme. Il faut redescendre de la montagne, retrouver la vie courante pour œuvrer dans la réalité du monde, mais redescendre transformé par cette vision, laquelle ne peut cependant être comprise qu'après et avec la résurrection. D'où cette recommandation de Jésus à ses disciples, recommandation qui reste malgré tout surprenante pour nous, recommandation de n'en parler à personne. Alors qu'ils étaient tombés face contre terre, les disciples sont relevés par Jésus qui les rassure et leur permet de reprendre la route. Et la voix qui descend du ciel les invite à écouter. Se relever, descendre de la montagne, écouter la parole de Dieu à travers son Fils Jésus, Messie crucifié. L'écouter aussi à travers notre prochain. Oui, écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Amen.